France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
À Pierre Assouline, qui lui demandait un jour s'il songeait à organiser sa succession, le patron des éditions de Minuit répondit « Pas tellement, ce sera aux autres, après moi, et notamment à ma fille Irène, d'y pourvoir. Je tâcherai de leur laisser un instrument en bon état. Ils en feront ce qu'ils jugeront bon, l'autocratisme a ses limites. » Il faut croire que l'instrument que Jérôme Lindon laissa à sa disparition en 2001 était en bon état, puisque la désormais longue histoire des éditions de Minuit continue de s'écrire sans lui, avec Irène Lindon à leur tête, dans la continuité de ce qui était déjà. Dans le cinquième et dernier des entretiens d'Avoinu qu'il accordait en 1994 à Jean-Maurice de Montrémy, Jérôme Lindon soulignait pourtant combien lui paraissait miraculeux que les éditions de Minuit soient parvenues à traverser tous les âges d'une existence périlleuse, au point de pouvoir même sereinement s'envisager un avenir dans un temps peu propice aux artisans éditeurs. Peu porté sur les commémorations et le culte du passé, fidèle à ses principes et ses convictions, c'est au présent, avec une passion intacte pour son métier, que s'exprimait Jérôme Lindon dans le dernier volet d'une série qui révélait plus que tout un amour, une foi peut-être même, en la littérature et les auteurs, en ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui, comme en ceux de demain. À voix nue, Jérôme Lindon, cinquième et dernier entretien, diffusé la première fois le 21 octobre 1994 sur France Culture.
À voix nue.
Jérôme Lindon s'entretient avec Jean-Maurice de Montrémy. Cinquième et dernier entretien.
Jérôme Lindon, nous parvenons au terme de cette série d'entretiens et on voit bien que finalement vous n'aimez pas trop la mémoire, souvenirs, se raconter.
C'est-à-dire je n'ai pas le culte de la mémoire. Effectivement, j'ai l'impression de temps en temps de commémorations bicentenaires et d'enjolivement du passé, etc., qu'on passe beaucoup de temps à se pencher sur le passé et ça devient, me semble-t-il, dans certains cas, un frein tout de même. Ce qui est intéressant, quand on a la possibilité d'avancer, c'est d'avancer. Et du moment qu'on en a envie, et du moment qu'on peut le faire, ce qui est notre cas en ce moment, en France, eh ben, avançons, essayons de trouver des choses nouvelles, quitte à bien sûr se tromper souvent, quitte à gaspiller beaucoup de temps et d'efforts, mais c'est ce petit reste-là qui vaut la peine. Et laissons aux autres le soin de raconter les histoires.
Vous pensez que les éditeurs, par exemple, sont des gens, en général, qui n'ont pas de mémoire ou qui s'intéressent peu au passé? Ils s'intéressent toujours à ce qu'ils vont publier et pas à ce qu'ils ont publié?
Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas tellement tous mes confrères, je ne sais pas. Vous savez, c'est un métier, il n'y a plus beaucoup d'éditeurs à notre époque. Il y a encore des grandes maisons d'édition, il y a encore des directeurs de maisons d'édition, il y a encore de très bons directeurs de collection, etc. Mais l'éditeur au sens, disons, artisanal, où on l'entendait dedans, c'est-à-dire la même personne qui choisit le manuscrit, qui travaille, qui le fabrique et qui le vend, la même, et qui n'a pas des délégués pour se livrer à chacune de ses activités, et qui est responsable donc à tous les niveaux et qui s'engage personnellement, ben, il y en a de moins en moins, et c'est normal, parce que la plupart des éditeurs, ou bien ils échouent et ils déposent leur bilan, ou bien ils réussissent et deviennent de grandes maisons d'édition, et c'est au fond relativement rare de rester une petite maison d'édition, de rester d'abord et de rester une petite maison.
Alors, je parle tout de même de ce demi-siècle. C'est normal qu'un pratiquement un demi-siècle d'édition, avec tant d'auteurs glorieux, on vienne justement s'intéresser au passé, et ça vous irrite?
Ça m'irrite pas, mais c'est pas ça qui me passionne, disons. Ça m'a fait même très plaisir quand c'est avec vous que je parle. Mais très souvent, je passe mon temps. Hein. Enfin, j'ai lu, en effet, des propositions de ce type, parce que j'ai pas le temps d'abord.
Alors, quand vous vous retournez, que vous regardez justement les livres que vous avez publiés, là, il y en a beaucoup derrière vous, il y en a aussi à côté de vous, ça vous inspire quel sentiment? L'idée que vous étiez bien meilleur autrefois et plus maintenant, ou le contraire?
Oui, on pense toujours qu'on a été meilleur autrefois et qu'on est fini, ça c'est vrai.
Ah bon? Ah oui. Sérieusement?
Ah bah oui, vous savez, ça a commencé tout de suite après le Nouveau Roman. À partir des années 60, je me suis dit, bon, bah, on a fait un bon travail, en effet, mais c'est probablement terminé, on fera plus rien maintenant. Et de fait, pendant 20 ans, entre 1957, qui est la date de publication du Vent de Claude Simon, et 1979, qui est la date de publication du Méridien de Greenwich de Jean Echenoz, on a fait très peu de choses. Il y a eu des choses, mais enfin...
Il y a eu même beaucoup de grands livres de Claude Simon,
ah non, mais
de Paget.
Je parle des nouveaux, des nouveaux écrivains que nous ayons publiés dans cette époque. Il y en a eu très peu. Il y en a eu très très peu.
Ah, vous avez eu le sentiment qu'au fond, vous aviez un groupe d'une petite dizaine d'écrivains que vous aviez suivi et que ça ne se renouvelait pas?
Non, je pensais qu'on était généralement l'éditeur que d'une génération. Ça, j'en étais presque persuadé à ce moment-là. Et j'ai été très surpris, et très agréablement surpris, je dois cette surprise à Jean Echenoz, de voir que tout à coup recommençait quelque chose de tout à fait différent, mais de quelque chose recommençait comme ça avec les années 80, et aujourd'hui il y a plus de jeunes écrivains aux éditions de Minuit, à mes yeux prometteurs, qu'il n'y en a jamais eu, et même à l'époque du Nouveau Roman.
Vous dites souvent que vous ne publiez pratiquement que deux nouveaux écrivains par an au maximum.
C'est-à-dire, on ne choisit pas d'en publier que deux, mais quand on se retourne, comme vous le disiez tout à l'heure, sur le passé, on s'aperçoit que en moyenne, c'est ce qui s'est passé dans les 46 dernières années. On n'a pas dû publier ici 92 écrivains de littérature en tout depuis 1948.
Donc fidèle à ceux qui sont là, qui restent et qui continuent leur œuvre, et prudent dans les redécouvertes ou...
Non, pas prudent, mais on publie ce qu'on a envie de publier. Il se trouve qu'on n'a pas envie de publier plus de livres que ça. Enfin, envie de publier, je vous ai expliqué pourquoi. On se sent capable de publier et de promouvoir finalement très peu de livres. Alors, il pourrait y en avoir 3 ou 4 par an. Il se trouve qu'en moyenne, il y a eu des années où il y en a eu moins et des années où il y en a eu plus.
Mais je reviens au problème de ces années 70, c'est-à-dire au moment où vous êtes le glorieux éditeur des grands noms du Nouveau Roman, qui d'ailleurs vont tous plus ou moins quitter le Nouveau Roman à leur manière, si je puis dire. Et quand vous vous êtes dit, voilà, je suis l'homme qui publie une génération, est-ce que je vais en trouver d'autres? Est-ce que ça vous a angoissé?
De toute façon, je dois être très angoissé de nature. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, il se passe d'autres choses. Il y a la guerre d'Algérie, donc il y a les livres politiques qui occupent une partie de mon activité et de mon temps. Puis alors, il y a eu toute cette éclosion des sciences humaines et de la philosophie qui a justement rempli très bien ces deux décennies dont je vous parle et qui étaient plutôt maigres en matière de nouveaux écrivains. Donc on a toujours quelque chose à faire, en réalité, quand on veut vraiment s'occuper.
Oui, mais le passage s'est fait, progressivement, des écrivains à ces grands philosophes que vous avez publiés.
Vous savez, on ne voit pas l'herbe pousser. Hein. Je suis capable de vous parler de ces choses, en effet, avec le recul, mais sur le moment, on ne voit rien se faire. Si vous m'interrogez aujourd'hui sur la rentrée des éditions de Minuit, je vais rester quoi? Je ne vais rien pouvoir vous dire, parce que ces choses-là, on les vit, mais on ne peut pas les parler. On ne peut parler que des choses mortes. On ne peut parler qu'après coup. C'est pour ça que je ne suis pas un enthousiaste de la mémoire.
Oui, mais là, ces sciences humaines qui ont commencé à déferler, ouais. Ça correspondait aussi à un goût chez vous? À ce moment-là, vous vous posiez des questions intellectuelles?
Oui, enfin non, c'est surtout au fait que j'ai rencontré des gens, Pierre Bourdieu, Gilles Deleuze, qui étaient des gens qui me paraissaient des gens de très grande envergure. Bon, ils trouvent qu'ils sont venus aux éditions de Minuit, c'est pas moi qui suis allé les débaucher ailleurs.
On a compris, mais attends, chez vous, il faut venir.
C'est ça, oui, c'est ça. Ils m'ont fait l'honneur de venir et il va sans dire que j'ai été très flatté et que bon, ça me paraissait très intéressant, même si je ne me considère pas du tout comme compétent, ni en matière de philosophie, ni en matière de linguistique, ni en matière de sociologie, ni en rien du tout. Mais simplement, comme je vous le disais, j'essaye d'appréhender les choses par leur écriture. Je pense que Là aussi, je suis horriblement prétentieux, mais je dirais qu'on doit pouvoir repérer quelqu'un, un grand esprit, par son langage. Moi, j'ai ce sentiment. Je veux dire, je vous parlais de Jacobson une fois, qui est quelqu'un de très éloigné de moi, et en plus, il n'écrivait pas en français, donc c'était d'après la traduction. Mais même à travers cet écran, ce double écran, on pouvait se dire, quelqu'un qui écrit ça, c'est quelqu'un qui parle vrai, qui dit vrai. Je veux dire, ça joue dans tous les domaines. Et bien entendu, il y a encore un pont entre l'écriture de Gilles Deleuze, celle de Jacobson, celle de Pierre Bourdieu, celle, bon, etc. Et puis, tous les livres qu'on a publiés n'étaient pas des livres géniaux. Hein.
Mais je reviens à cette crise des années 70, lorsqu'en effet les sciences humaines ont connu un extraordinaire envol, et on a eu l'impression que la fiction, le roman, enfin l'écriture littéraire, avait des difficultés. Ouais. Comment est-ce que vous interprétez ça ?
Ça, je n'interprète pas. Moi, je veux dire, je subis les choses. Je veux dire, je n'agis pas, je n'ai pas de pouvoir. J'essaye, et par conséquent, je n'ai pas suffisamment même de vue, et une vue suffisamment élevée des problèmes pour pouvoir dire des choses intéressantes sur la question. Non, je vois ce qui se passe. En effet, il y a eu cet énorme essor des sciences humaines dans l'université française. Et aujourd'hui, c'est bien sûr retombé, tout le monde le sait. Il y aurait beaucoup à dire aussi sur la question. Et puis, quant à la littérature, non. La littérature, on peut effectivement, rétrospectivement, expliquer ce qui s'est passé. Les éditions de Minuit étaient tellement marquées par le nouveau roman que nous ne recevions plus à ce moment-là que des épigones, c'est-à-dire des gens qui trouvaient le nouveau roman des choses très intéressantes, mais qui eux-mêmes ne faisaient pas des choses formidablement intéressantes en soi, qui n'étaient pas tellement novatrices. Alors qu'au contraire, les gens qui auraient pu apporter un son nouveau ne pensaient pas devoir apporter leurs livres aux éditions de Minuit, dont ils pensaient que les livres, que ce n'est pas publiez. Pour eux. Et vous voyez, quelqu'un comme Jean Echenoz, par exemple, a pu dire dans une interview qu'il avait envoyé finalement ses manuscrits aux éditions de Minuit refusés ailleurs, que parce que justement il n'avait pas d'autre éditeur, et mais il ne pensait pas du tout qu'une maison austère, car il avait la même idée que vous sur la question, publierait des livres aussi légers. Alors bien entendu, je ne suis pas austère et lui n'est pas léger.
Enfin, justement, cette rencontre, c'est une nouvelle fois une rencontre qui s'est faite par le courrier.
Oui, mais toujours, tous les manuscrits qu'on reçoit, c'est par le courrier. Je veux dire, pratiquement depuis 20 ans, je crois que je n'ai pas eu d'autre moyen de recevoir un manuscrit que par la poste, ou déposer directement, mais anonymement, directement à nos bureaux, non, puisqu'on ne va pas les chercher, il faut bien qu'ils arrivent tout seuls.
Parce que vous savez, le paradoxe, à l'époque où le nouveau roman était, disons, une forme reconnue, on pensait effectivement que les éditions de Minuit, Jérôme Lindon, c'était le nouveau roman. Et puis est arrivé Echenoz, d'autres écrivains, Jean-Philippe Toussaint et encore d'autres, qui sont arrivés. Et on a dit, ah, ça y est, Lindon, il a inventé quelque chose de nouveau. Il a inventé le minimalisme français, les tout petits livres, des tout petites phrases.
Ben, je suis très content quand on dit des choses pareilles. Non pas tellement parce que ça me flatte, mais parce que ça aide peut-être le public et la critique à appréhender, non pas un phénomène à mes yeux, mais ce qu'il croit être un phénomène. Je veux dire, le nouveau roman, ça n'existe, d'une certaine façon, ça n'existe pas, le nouveau roman. C'est deux très grands écrivains qui, à une époque, écrivent dans la même maison d'édition et refusent, disons, un certain académisme, en effet. Bien. Mais chacun est parfaitement original par rapport aux autres. N'en reste pas moins qu'à partir du moment où on invente le terme nouveau roman, il est beaucoup plus facile, par exemple, à la presse, d'en parler. On parle du nouveau roman. Il y a des écrivains comme Pinget ou Claude Simon qui ont dû certainement une partie de l'intérêt qu'on leur portait au fait qu'on les flanquait dans cette école, n'est-ce pas, tout à fait de façon stupide, parce que c'était pas une école du tout, mais enfin c'était comme ça. Et donc, si un jour on invente un nouveau terme minimaliste ou autre, et que ça permet à des écrivains moins connus que Jean Echenoz ou que Jean-Philippe Toussaint ou que Jean Rouault d'être comment dirais-je, collé à eux, et donc d'être lu de cette façon, très bien, très bien. Ben, cela dit, chaque œuvre est une individualité en soi, et qu'évidemment, je comprends très bien l'irritation des auteurs en général, quand de se voir cataloguer dans un groupe ou dans une école, a fortiori, avec lesquels ils ne se sentent en général pas d'affinité profonde.
Alors autrefois, on vous reprochait finalement d'être trop intello, et maintenant certains vous reprocheraient de faire des livres, de promouvoir, d'éditer et d'aimer des livres qui on trouve un peu légers dans l'apparence en tout cas. Et alors donc les critiques se sont pratiquement renversées. Après avoir été le grand intellectuel terroriste de la littérature française, vous en êtes le divertisseur.
Ah, le divertisseur, je ne suis pas sûr que, quand même, les éditions... Vous savez, l'impression que mais quand un manuscrit arrive de la part d'un de mes confrères, c'est généralement pas du tout un manuscrit divertissant. Généralement, aux yeux de mes confrères, je dois avoir plutôt la réputation de publier des livres emmerdants, si j'en juge par ceux qui m'envoient. Non, moi, effectivement, personnellement, je trouve la plupart des livres des éditions de Minuit très joyeux, mais vous savez, c'était déjà le cas avec Samuel Beckett. Dès la première fois que j'ai lu le premier manuscrit de Samuel Beckett, ça m'a flanqué le fou rire.
Mais quand sont arrivés des gens comme Echnoz et tout ça, qui sont des gens très pleins de fantaisie, pleins de couleurs, avec des très impressionnistes, est-ce que ça correspondait aussi chez vous à une évolution personnelle, esthétique?
Je sais pas, vous savez, je ne suis pas, moi je n'existe pas, je suis que le reflet des manuscrits. Non, je deviens les manuscrits que je reçois et que je lis. Alors bon, l'influence, bien sûr, je dois avoir changé, mais encore une fois, j'ai l'impression que si j'avais lu, si Jean Echnoz avait écrit dans les années 50, si je l'avais lu dans les années 50, je l'aurais certainement publié dans les années 50, enfin je crois. Ben, y a beaucoup de livres que j'aurais publiés, que je n'ai pas publiés parce qu'ils n'ont pas été envoyés aux éditions de Minuit.
Simplement. Est-ce qu'on peut faire une sorte de portrait, est-ce qu'il y a une sorte de portrait robot de l'écrivain qui est actuellement à une quarantaine d'années comparé aux écrivains d'il y a 40 ans, lorsqu'ils avaient eux-mêmes 40 ans? Est-ce que ça a changé? Est-ce que leur statut est le même? Est-ce que par exemple, ceux que vous connaissiez quand vous avez 40 ans, les grandes éditions de Minuit, est-ce qu'ils étaient...
Mais vous savez, ils avaient des différences d'âge considérables. Michel Butor aurait pu être le fils de Nathalie Sarraute. Hein. Donc, ils ont été publiés en même temps, mais ils n'avaient pas le même âge. Ils avaient le même âge, disons, en termes éditoriaux, puisqu'ils ont été connus à peu près à la même époque. Mais vous savez, je crois pas... Moi, j'arrive pas du tout à parler en termes généraux. Pour moi, les écrivains sont des... plus encore que les autres êtres humains, des gens profondément dissemblables sur tous les plans. C'est toujours les différences qui me frappent plus que les ressemblances.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que ces écrivains, que ce soit Echnoz ou même Éric Chevillard, qui est beaucoup moins connu, sont pas un peu tous perdus dans un grand monde vague et hostile, alors qu'autrefois, les écrivains étaient plus regroupés entre eux, se connaissaient davantage?
Pas du tout. Vous savez, je crois que les écrivains dits d'une vraie mort, c'est tout à fait étonnant ce qui s'est passé à l'époque. C'était... Quand vous parlez de grands écrivains comme Samuel Beckett ou Nathalie Sarraute, qui avaient été publiés au moins pour un livre avant la guerre en France et qui étaient totalement inconnus dans le cas de Beckett à son troisième, enfin après Murphy, dans le cas de Nathalie Sarraute, après deux livres admirables qui avaient été publiés chez Robert Marin puis chez Gallimard, trois livres même. Non, ils étaient complètement en marge, ils étaient rejetés partout. C'est d'ailleurs pour ça que les éditions de Minuit, c'était le rebut l'édition française. On ne publiait que les livres qui étaient refusés par les autres. Ça, comme je vous dis, on n'avait aucun moyen de les connaître, ces auteurs. Je dirais qu'au contraire, j'ai l'impression que l'édition française aujourd'hui est plus curieuse, plus attentive à ne pas laisser échapper un nouveau Beckett ou un nouveau Claude Simon. D'une certaine façon, ils sont sinon plus choyés, tout au moins plus remarqués, plus... Il y a le Centre National des Lettres qui a une activité infiniment plus grande que n'avait la Caisse des Lettres à l'époque. Ça s'appelle d'ailleurs en même temps plus des lettres, ça s'appelle Centre National du Livre. Et puis, il y a des formes de mécénat. De certains points de vue, il y a des progrès qui ont été faits. Maintenant, il y a des changements qui ne sont pas toujours aussi favorables.
Vous ne pensez pas tout de même que les jeunes écrivains d'aujourd'hui se trouvent plus seuls, plus isolés qu'autrefois?
Non, mais encore une fois, ça dépend lesquels. Évidemment, je peux vous dire que tant qu'on est voué à 1000 ou 2000 lecteurs, vous savez que le premier livre de Robert Pinget qui s'est vendu à plus de 300 exemplaires, c'est le 9e. Non, c'est un record d'ailleurs, ça je veux dire, on ne l'a jamais battu aux éditions de Minuit. Mais il fallait une certaine vertu à quelqu'un comme Robert pour continuer d'écrire devant une telle indifférence. C'est l'Inquisitoire qui a été le premier qui l'a sorti un peu du trou. Non, aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup d'écrivains qui attendraient leur 9e livre pour être lu par plus de 300 personnes.
Est-ce que vous pensez aussi que les jeunes écrivains d'aujourd'hui ont tendance à être plus infidèles à leur éditeur qu'autrefois? Supposons que parmi ceux dont vous avez fait le succès, est-ce que vous craignez qu'un jour, ils s'en aillent très vite de chez vous parce que d'autres de vos confrères leur donneront des beaux contrats?
Si un auteur quitte un éditeur, c'est de la faute de l'éditeur. Alors,
vraiment?
Ah oui, c'est en tout cas la première responsable, c'est l'éditeur, peut-être que l'auteur est médicien, mais en général, Non, mais je veux dire, ne serait-ce que parce que l'éditeur n'a pas compris ce que l'auteur attendait de lui, n'a pas fait ce qu'il fallait. Peut-être qu'il ne l'a pas fait à dessein, d'ailleurs. Mais enfin, y a des cas, bon, même vous disiez tout à l'heure, quand on a un manuscrit, quand un jeune auteur vous apporte un manuscrit qu'on trouve pas au point, pas publiable, qu'est-ce qu'on fait en face de ça? Eh ben, en général, je tiens, quand c'est un auteur auquel je tiens, je lui dis les choses, franchement, je lui dis, je trouve que vous ne devriez pas publier ce livre, mais si vous tenez absolument à le publier, eh ben, comme je sais qu'il sera publié ailleurs, car c'est souvent des livres qui sont pas mal du tout, mais pas aussi bien qu'il pourrait, comme je sais qu'il sera publié ailleurs, ben, je le publierai quand même, simplement, je le fais à contre-cœur.
Vous dites à l'auteur, voilà, je vous publie à contre-cœur.
Oui, je vous publie à contre-cœur si vous tenez absolument à publier, mais moi je vous conseillerais dans ce cas-là de retravailler ou de ne pas publier le livre. Vous savez, la plus grande marque de confiance qu'un auteur, et souvent ça a été le cas, même de grands auteurs de la maison, qu'un auteur puisse faire à un éditeur, c'est de ne pas publier un livre que son éditeur lui dit de ne pas publier, alors qu'il pourrait le publier dans n'importe quelle autre maison d'édition. Eh ben, j'ai eu des cas de ce genre que je ne vous citerai pas pour les raisons que vous imaginez bien, mais je peux vous dire que j'ai d'une façon générale tendance à avoir de la gratitude à l'égard des auteurs, mais spécialement à l'égard de ceux-là.
Alors, c'est vrai, si on regarde le passé une dernière fois, vous avez commencé avec un auteur, Beckett, qui, vous l'avez dit vous-même, aurait pu être votre père. Vous avez continué avec des auteurs qui étaient, je veux dire, vos frères ou vos amis, c'était à peu de choses près vos contemporains. Et puis maintenant, vous êtes arrivé à vos fils et parfois même pour peut-être Marine Diaye, tout ça, pour vos petits-fils.
Éric Chevillard pourrait effectivement en l'âge d'être mes petits-fils.
Si je Alors, ça modifie les relations.
Tout à fait. Mais il faut voir aussi que c'est aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà dit, Irène qui est en relation beaucoup plus que moi avec ces écrivains-là. J'ai des relations, bien sûr, mais ils sont tout à fait secondaires par rapport à ceux qu'Irène a avec eux. C'est vrai que c'est tout à fait différent et que c'est une des raisons pour lesquelles je ne pensais pas qu'on peut être l'éditeur de plusieurs générations. Mais en fait, suis-je vraiment aujourd'hui l'éditeur de ces jeunes gens ou est-ce que c'est pas plutôt Irène ?
Mais vous dites cela comme si vous n'êtes pas désengagé, bien sûr, d'édition de minuit, mais comme si vous estimiez qu'il fallait laisser la place à quelqu'un d'autre.
Les écrivains que vous avez cités, on pourrait en citer d'autres que je ne citerai pas parce que il faudrait les citer tous, comme selon l'expression, et ça m'ennuierait. D'avoir l'air de faire quelques discriminations que ce soit. J'ai la même lecture, je crois, que celle que j'avais pour les écrivains des années 50. Mais eux, c'est évident que je me mets à leur place. Je suis un vieillard qui a fait la Première Guerre mondiale, pratiquement. Enfin, je veux dire, je suis d'un autre siècle pour eux. Et il est normal que s'ils doivent avoir des relations réellement intime avec leur éditeur, ce soit avec quelqu'un qui soit plus proche d'eux, au moins en âge, ce qui est le cas. Avec
vous donnez beaucoup d'importance à cette sympathie de génération.
Je pense, oui, non, c'est eux qui le font, je vois bien, je ne m'efface pas systématiquement, mais je vois bien que, et ça me paraît tout à fait normal, eux-mêmes ont tendance à téléphoner à Irène plutôt qu'à moi, peut-être que c'est pour ne pas me déranger.
Oui, on se dit qu'il ne faut pas déranger le patron.
Ah, peut-être, mais il faut dire, en fait, on se dit ce qu'on veut, d'ailleurs tout ça n'a aucune importance. Je trouve déjà tellement miraculeux que cette maison ait commencé, qu'elle soit née, qu'elle ne soit pas morte en bas âge, qu'elle ait vécu une enfance, puis une jeunesse, puis une adolescence, puis même une partie d'âge adulte, et qu'on puisse même envisager aujourd'hui qu'elle est une deuxième génération en tant qu'éditeur. Je trouve ça, c'est une série de miracles étonnants. Et je veux dire, aucun d'entre eux n'était prévu, en tout cas. Et à chaque moment, j'avais tendance à me dire que c'était déjà très bien comme ça, et que ça pouvait s'arrêter à ce moment-là, tout en continuant à le faire. Vous savez, un de mes confrères me disait, à propos de problèmes d'édition, que dans la conversation, il semblait dire qu'il détestait mon pessimisme. Et je lui disais que, je comprenais très bien qu'on puisse dire ça, mais que je me considérais plutôt, si c'était le mot pessimiste qui convenait, comme un pessimiste actif, et que je préfère quand même les pessimistes actifs aux optimistes béats. Et au bout du compte, je crois qu'ils obtiennent plus de résultats, au bout du compte. D'ailleurs, moi, j'en pourrais pas le mot pessimiste, mais enfin, c'est eux qui le font. Je tâcherai d'être lucide, simplement.
Et vous pensez qu'il est possible pour quelqu'un qui a identifié toute sa vie une maison d'édition, non pas de s'en détacher, mais disons de la considérer d'une autre manière ? laisser d'autres agir en même temps ?
De toute façon, évidemment, là encore, je suis formidablement privilégié parce que c'est ma fille et que je suis très proche d'elle et que nous n'avons pratiquement jamais eu de conflit de ce point de vue, ni d'un autre d'ailleurs. Et par conséquent, j'ai le sentiment, pour l'instant, de vivre exactement la vie des éditions de Minuit que j'ai vécue jusque-là. Et d'ailleurs, c'est un fait. Je veux dire, il n'y a pas de différence de nature. Il se trouve que nous sommes deux au lieu que j'étais seul.
Et vous envisagez comment l'avenir ?
Lequel ? Le mien ou celui des éditions de Minuit ?
L'ensemble.
Oh ben vous savez, alors là, il faudrait parler de quantité de choses qui dépassent le cadre même des éditions de Minuit, qui est l'évolution de l'édition, l'évolution de la librairie, l'évolution de la littérature, l'évolution de la société occidentale, l'évolution de toutes sortes de choses que je vois se faire, qui ne sont pas du tout négligeables et qui influeront, comme on en parlait l'autre fois, à propos des sciences humaines. Tout ça a interagi. Hein. Il se passe beaucoup de choses. On n'a pas du tout parlé au cours de ces entretiens d'un sujet qui, par exemple, pour moi, me tient tout à fait à cœur, c'est l'existence d'une librairie de haut niveau en France. Là aussi, nous sommes très privilégiés, nous, Français, nous avons ça. L'avenir de la littérature passe, à mes yeux, par la permanence de ce type de librairie, par exemple, qui est un phénomène pour moi au moins aussi important que celui de l'existence d'une presse littéraire, et qui est probablement plus fragile.
Vous n'éprouvez donc pour votre métier et pour tous ces livres aucune lassitude ?
Ah non, certes, pas encore.
Pas encore, j'aime bien ça, c'est votre côté pessimiste. Non, vous ne dites pas oui, encore, ça, vous auriez pu dire jamais.
Je ne préjuge pas. Non, je vous l'ai dit une fois, j'ai vu, moi, ça m'est arrivé de voir des gens dans la vie, vous aussi sans doute, tout le monde, nous avons vu des gens qui cessaient d'avoir de l'appétit, qui cessaient d'avoir envie des choses. On en voit tous, des gens là, et ça c'est pour moi la pire calamité, en effet, qu'ils soient, mais on n'y peut rien. Quand ça vous arrive, on n'a plus qu'à tirer l'échelle, effectivement.
Et ça ne vous arrive pas ?
Pas encore, comme je vous l'ai dit. Maintenant, ça m'arrivera peut-être. Je veux dire, je ne sais pas combien de temps je vivrai encore, combien de temps je travaillerai ici, peu importe. Pour moi, le présent est fait, en effet, d'une démarche vers l'avenir, plus que de retour vers le passé. C'est un métier très exaltant, d'une certaine façon, puisqu'on a la chance de vivre la jeunesse des autres, hein, puisqu'on a chaque année de nouvelles choses qu'on n'aurait pas imaginé, qu'on n'aurait pas inventé soi-même, puisqu'on est généralement incapable d'inventer quoi que ce soit quand on est éditeur, mais qui se présente à vous et qui vous donne la possibilité d'une participation personnelle. C'est merveilleux. Bien entendu, s'il n'y avait plus un seul manuscrit qui arrivait, les éditions de Minuit s'arrêteraient. Hein. Mais je ne vois pas pourquoi ça se passerait, parce que alors, sur ce plan-là, je n'ai pas d'inquiétude. Je suis sûr qu'il y aura des écrivains. Je suis sûr qu'il y aura aussi toujours des lecteurs. La question est juste de savoir s'il y a suffisamment de lecteurs pour permettre à des écrivains de vivre, par exemple, et un éditeur éventuellement.
Jérôme Lindon s'entretenait avec Jean-Maurice de Montrémy. Réalisation, Marie-André Arminot.
Cet entretien avec Jérôme Lindon a été diffusé la première fois le 21 octobre 1994 sur France Culture.